Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave.
Eh bien, démarrons cette séance. Je suis très heureux de vous retrouver. Après deux semaines d'arrêt m'ont coupé en plein vol sur la question électrique, puisque la semaine dernière, avec le même titre, qui n'est pas celui d'ailleurs qu'il y a dans l'affiche, parce que je suis allé un peu plus lentement sur cette question de ce que sont ces énergies électriques bas carbone, on a beaucoup parlé de nucléaire. Pour en dire évidemment l'importance, notamment dans un pays comme la France, et dans le contexte que vous connaissez bien, qui est celui de la défossilisation de notre système énergétique. C'est une des énergies qu'il faut évidemment considérer avec le plus grand intérêt, en tout cas c'est ma position, et ça a l'air de devenir petit à petit, de redevenir petit à petit, vous verrez, de redevenir une position française après l'avoir été un peu moins pendant une dizaine d'années. Et cette question va se poser de façon majeure pour l'Europe si jamais il y avait une politique énergétique européenne un peu intégrée. J'aurai l'occasion de parler de cette problématique qui est absolument majeure pour la transition énergétique en quelques slides, mais vous aurez une heure avec Christophe Moinceau, qui est le directeur général délégué et directeur scientifique du Bureau de Recherche Géologique et Minière, le BRGM, un magnifique institut français, dont il va nous dire quelques mots, j'imagine. Donc, merci Christophe d'être là. Et donc, je commence, je vais rappeler, parce que pour ceux qui n'ont pas encore assisté à ces cours, et pour ceux qui, après deux semaines d'absence, ont oublié certaines choses, rappeler que, au fond, c'est ça la trajectoire. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que, contrairement d'ailleurs à ce qu'on raconte, ce n'est pas vers une décroissance de la consommation d'énergie que la planète se dirige, c'est vers une croissance d'énergie et plus spécifiquement vers une croissance d'électricité, de consommation électrique, évidemment avec ici. Alors, avec ici des pentes qui dépendent évidemment des efforts plus ou moins importants pour, d'une part, électrifier des usages, on va en dire un mot, et d'autre part, pour évidemment installer des capacités électriques. Et évidemment, des capacités électriques bas carbone. Même si, comme je l'ai montré la dernière fois, nous sommes dans un moment où plusieurs centaines de centrales à charbon sont en cours de construction dans le monde, idem pour le gaz, et que le gaz de schiste a beaucoup de succès en ce moment, il nous vient des États-Unis, on en a besoin. Je rappelle cela, à nouveau, pourquoi cette obsession d'électrifier ? Tout simplement parce qu'on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre limité de ressources énergétiques. Si on veut se débarrasser de ceux qui... Parce que les chiffres ici, ce sont les émissions de CO2 par kilowattheure d'électricité produite. Si on veut éliminer ces gros émetteurs, que sont le charbon, le gaz et le pétrole, et qu'on veut le remplacer par du nucléaire, de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien, ben qu'est-ce qu'on fait ? On fait que remplacer des énergies, thermiques, de stock, par des énergies qui sont purement électriques. Donc, par définition, de vouloir faire du solaire et de l'éolien, c'est vouloir faire de l'électricité. La question majeure pour la France en particulier, mais pour tous, c'est que comment on pourra augmenter cette... j'ai mis la consommation. Consommer, c'est facile. Pour augmenter la consommation, c'est facile. Hein. Ce qui est plus dur, c'est de produire. C'est plutôt la production électrique. Aujourd'hui, 470 TWh, et il y a toutes sortes de scénarios qui montent. Enfin, il y a le scénario de référence de RTE, dont je parlerai très spécifiquement la semaine prochaine. Et puis, il y a des scénarios qui pratiquement doublent la quantité d'électricité. Rien que ça, dont on parle relativement avec beaucoup de sérénité, rien que ça, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas, en tout cas, ça sera déjà une révolution absolument massive de passer une telle quantité de production d'électricité pour un pays comme la France. Et pour le moment, on n'a pas démarré. Alors, les choses vont très vite, et ça sera mon dernier mot sur le nucléaire, puisque je voulais vous parler tout au long de cette heure des énergies dites renouvelables. En fait, vous voyez, le 4 mai, vous savez qu'il y a un projet de loi qui est relatif à l'accélération du nucléaire qui est en cours de discussion, et la commission mixte paritaire, qui est composée donc de députés et de sénateurs, est parvenue à un compromis, donc c'était la semaine dernière. Et ce compromis, c'est surtout, j'en retire celui-là, c'est qu'il y a confirmation de la suppression du plancher et du plafond concernant le nucléaire. Dans la loi dont j'ai dit, pour laquelle j'ai exprimé beaucoup de critiques dans mes cours précédents, c'est-à-dire la loi pour la transition énergétique et la croissance verte votée en 2015, où, assez curieusement, on imaginait un monde moins énergétique, moins électrique, comment a-t-on pu penser ça ? Mais c'était vrai déjà aussi en 2019, je l'ai dit, avec la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie menée par Édouard Philippe, Premier ministre à l'époque, cette idée qu'on pourrait consommer moins et moins d'électricité, et donc il était pertinent de bloquer le nucléaire à 50%, de le bloquer à une certaine limite de puissance, et de faire disparaître 14 réacteurs. Bon, ceci a été supprimé, ça date de... Enfin, il faut que la loi soit votée, mais disons que le compromis ici permet de penser qu'en effet, l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50% est abandonné. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, je disais que, effectivement, nous avions toujours dans la loi cette situation-là. Et que le plafond de 63 gigawatts est aussi abandonné. Voilà. Alors si on en vient au renouvelable, qui est une sorte de, évidemment, de nouvelle perspective pour la production électrique dans le monde entier, voilà. Donc si en termes d'énergie primaire, ce qu'on constate de toute façon tout de suite, et vous allez le voir dans les une ou deux figures que je vais vous montrer, c'est que pour le moment, on est très très loin du compte à l'échelle mondiale de la contribution, d'une contribution sérieuse des énergies renouvelables, même si nous allons voir aussi qu'il y a une dynamique extrêmement forte, pas pour toutes, pour certaines, plus que d'autres. Mais en tout cas, vous voyez, ici, en termes d'énergie primaire, on le sait, je l'ai déjà dit 10 fois, c'est pétrole, charbon, gaz, hein, pour... plus de 80% des énergies que nous consommons. Mais revenons à l'électricité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais même l'électricité, comme vous le voyez, évidemment, la part des fossiles est moindre, de l'ordre de 60%. Mais quand on regarde les plus gros contributeurs des énergies bas carbone, c'est l'hydroélectricité, autour de 15%, et c'est le nucléaire, autour de 10%. Ceci depuis pas mal de temps, et l'éolien est de 6 et quelques pourcents, le solaire près de 4, les bioénergies autour de 2. Donc c'est encore de... Voilà, il faut constater qu'en 2023, c'est les chiffres 2021, parce que 2023 c'est pas fini, et 2022 il faut les analyser. Voilà où on en est. Et pour la France, on réduit le périmètre, assez souvent je reviendrai sur le cas de la France, sur la France la situation est pratiquement identique, à la seule exception qui est évidemment fait la particularité de la production électrique française, qui est qu'au lieu d'avoir des fossiles pour l'électricité, nous avons beaucoup de nucléaire. Hein, comme je l'ai dit, c'est un des pays les plus nucléarisés, donc ici vous voyez que la contribution gaz-charbon est très faible. C'est surtout du gaz, mais à hauteur de 6%. Les chiffres que vous voyez ici pour solaire, bioénergie, éolien, ça correspond à peu près à la moyenne mondiale. Il n'y a rien de particulier, ni moins bien, ni mieux. La part hydraulique et la part nucléaire, ici près de 70%, font que, en effet, ce pays, le nôtre, est vertueux en matière d'émissions de CO2 pour sa production électrique grâce à ces contributions-là. Tout ça, on l'a dit. Pour finir, à nouveau, pourquoi cette pression sur l'électrification? Parce que, justement, un certain nombre de secteurs très émetteurs de CO2 se prêtent finalement pas si mal à l'électrification. Donc il y a une certaine logique, avec les limites qu'on verra, mais vous voyez qu'ici, pour le transport, qui est un des gros émetteurs, effectivement, il y a cette perspective, d'une part, surtout de la voiture électrique, des batteries, et potentiellement, un peu plus tard, éventuellement, de la mobilité hydrogène sur certaines mobilités, et peut-être aussi les carburants de synthèse, et ce qu'on appelle les e-carburants, dont je ne dirai pas grand-chose cette année. Ça fera l'objet de cours de l'année prochaine. Mais on peut faire le même raisonnement sur l'industrie. Vous voyez, l'industrie, 20% des émissions. Et là aussi, c'est un secteur qui a déjà engagé son électrification, mais pas suffisamment vite, sans doute, mais qui le fait quand même. C'est un secteur dans lequel on peut imaginer, et j'en parlerai aussi lors d'un cours l'année prochaine, je vais essayer de vous montrer quels sont les procédés industriels qui peuvent être électrifiés. Et puis l'habitat, bien sûr, avec notamment ce gros engouement sur les pompes à chaleur. Voilà, donc électrification de tout ça. Donc la question, c'est électrifier avec quoi ? J'ai déjà montré ça, et donc j'ai parlé nucléaire, et maintenant je vais parler des énergies renouvelables. Je parlerai peu d'hydroélectricité, je le mentionnerai, mais aujourd'hui en France, c'est une soixantaine de térawattheures par an d'électricité qui est produite par les barrages. Mais disons, pour le moment, à part peut-être des extensions de puissance sur les barrages existants, l'amélioration de l'efficacité de ces barrages, qui peuvent permettre de monter un peu en puissance, il n'y a pas de projet de construire de gros barrages en France qui vont augmenter significativement ces capacités. On est dans un scénario où on imagine que on se débarrasse du charbon et du pétrole pour faire cela. Et je poserai la question de quelle est la place du gaz, le fossile le moins émetteur. Dans cette affaire-là, ce gaz pouvant être encore naturel à un certain temps, c'est ce que je pense, mais place du biogaz, de l'hydrogène, mais ça c'est peut-être des choses très générales que je dirais, renvoyant aussi à des cours de l'année prochaine. Voilà, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais c'est assez compliqué, mais juste retenir que les énergies dites renouvelables ou bas carbone, enfin, en tout cas renouvelables, ce n'est pas que l'éolien et le solaire. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est que l'éolien, comme 6%, 6-7% de la production mondiale d'électricité, à un prix qui est aujourd'hui bas, je le redirai, ce sont des énergies qui ont vu leur coût de production, mais je dirais vous verrez qu'il faut quand même faire attention à ces calculs-là. Le photovoltaïque, donc autour de 4% de la production mondiale d'électricité, aussi à des prix comparables, mais évidemment, il y a l'hydroélectricité à des prix raisonnables, et puis il y a aussi la géothermie, dont on parle plus ou moins, mais là, pour le moment, on est à des contributions qui sont extrêmement faibles, et les scénarios, en général, n'appellent pas à une augmentation massive de cette partie-là, même si évidemment il faudra faire feu de tout bois et peut-être dans certains endroits essayer de l'exploiter, mais disons que je n'en parlerai pas. Et la biomasse est un sujet absolument clé. Aujourd'hui, c'est pas très important, mais comme je le redirai, la biomasse, c'est plein de carbone. Et dans le futur, je l'ai déjà dit, mais je le redirai plus précisément quand je parlerai de biomasse, de biocarburant, de biogaz, évidemment, il y a dans tous les scénarios une partie non électrique. Vous avez vu la montée de l'électricité, mais il n'y aura pas 100% d'électricité, donc il y aura aussi besoin de carbone massivement, et la biomasse sera sans doute une source de ce carbone, donc il faut considérer ça. Alors, quand on regarde au fond les évolutions, Ce qui est assez frappant, c'est que l'énergie renouvelable qui a aujourd'hui la dynamique la plus forte, c'est le solaire. Assez largement devant l'éolien. Et vous voyez ici, chaque année, hein, chaque barre constitue une année, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est les capacités installées en gigawatts. Donc cette tendance, ici c'est le solaire, hein, PV c'est pour photovoltaïque, donc chaque année c'est toujours plus. Pour l'éolien, c'est assez variable, ça s'est arrêté un peu ces derniers temps, y compris en Europe, pour tout tas de raisons que j'indiquerai. Mais quand même, vous voyez, une centaine de gigawatts d'installés. Le gaz, on continue à un rythme constant d'installer des capacités, vous voyez, autour de 40 gigawatts par an. Le charbon, ça diminue, même si ça existe toujours. L'hydroélectricité, alors j'ai dit que la France, il n'y avait pas de projet de barrage, mais il y a des projets de développement de l'hydroélectricité partout ailleurs, et donc on en est autour d'une vingtaine de gigawatts par an, et c'est vrai sur les cinq dernières années. Et puis le reste, peu d'investissement, peu d'installation. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et quand on regarde où ça se passe, vous le voyez ici, donc c'est essentiellement les grands pays industriels et massivement la Chine. Il y a actuellement en Chine plus de 300 gigawatts d'énergie solaire installée. Vous voyez la croissance massive. Donc vous voyez, hein, je l'ai déjà dit, mais chaque fois que on accuse la Chine de faire trop de charbon, de pétrole, de gaz, en même temps, c'est le pays qui fait le plus d'énergie renouvelable, le plus de batteries, le plus de véhicules électriques, le plus de tout ce qu'on aimerait faire. C'est eux qui le font. L'Europe, avec des contributeurs variables, ici, vous voyez, avec l'Allemagne en numéro un, et les États-Unis aussi, comme vous allez le voir aussi tout à l'heure, c'est un gros installateur d'énergie solaire. Et ce qu'on voit, et c'est cette tendance, vous voyez, la situation est ici, mais quand vous regardez les mouvements des capacités, quand je dis capacité, c'est de la puissance, hein, je parle en termes de puissance, donc c'est des gigawatts, c'est pas des terawattheures ou des gigawattheures, c'est des gigawatts. Vous voyez que donc ça veut dire c'est la quantité de centrales thermiques à gaz, à charbon, à pétrole, c'est la quantité de parcs solaires, c'est la quantité de parcs éoliens, enfin, etc. Ce qu'on voit, c'est que l'éolien monte, était devant le solaire pendant jusqu'à 2021, c'est à peu près en 2020 qu'il y a le basculement avec le solaire qui intervient au-dessus, mais on voit une tendance pour le solaire qui est beaucoup plus grande que pour l'éolien. Alors le problème, je le redirai, c'est que tout ça, je l'exprime, comme vous le voyez, en gigawatts, en puissance. Évidemment, ça ne nous dit pas tout, parce qu'il faut évidemment tenir compte de ce qu'on appelle le facteur de charge. Et le facteur de charge, c'est le fait que c'est le rapport entre la puissance utilisée sur la puissance installée. Or, le problème du solaire, c'est qu'il y a des moments dans la journée où il fait nuit et que donc il ne peut pas fonctionner. Et c'est ce qui explique pourquoi, malgré cette tendance très forte, vous avez uniquement 4% en termes d'énergie produite par le solaire, uniquement 4%, parce que, en effet, il y a ce facteur de charge et que le solaire, qui a un des plus bas facteurs de charge, vient derrière l'éolien, le nucléaire, l'hydraulique, le gaz, le charbon, évidemment. Donc ça, il faut en tenir compte. Plusieurs rapports assez intéressants pour essayer de voir la perspective. Notamment, il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie en 2022 et un intéressant rapport de l'Académie des technologies en 2023. effectivement, nous montrent qu'on va continuer à avoir une demande massive de solaire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a à peu près 1000 TWh sur les 28 000. C'est les fameux 3,5 ou 4 %. Et ce que nous dit l'AIE, c'est qu'on va... Alors, il faudra y aller, hein, parle de 25 000 TWh sur une électricité qui aura augmenté massivement, 73 000. Je ne sais pas comment ils font des perspectives avec des chiffres aussi précis, mais j'ai tiré les chiffres des rapports. Mais voyez, pour arriver à quelque chose comme objectif, plus de 30% à l'échelle de la planète, hein, à l'échelle de la planète, donc de plus de 30% de la part solaire dans l'énergie électrique produite. Bon, ça veut dire qu'il faudra, à l'échelle de la planète, multiplier par presque 30 le nombre de capacités de solaire. Alors, on va avoir ce discours de façon régulière au cours de cette heure, et sans doute Christophe ira dans le même sens. C'est évidemment la question de à quoi est-ce que cette transition que nous menons elle va aussi résoudre les problèmes de sécurité d'approvisionnement, de souveraineté énergétique. Je crains que non, puisque évidemment, vous avez compris que se débarrasser des fossiles, au-delà de la question du carbone, c'est aussi se débarrasser d'une dépendance très forte vis-à-vis de pays de producteurs, puisque nous n'en avons pas dans notre sol, encore qu'on pourrait discuter du gaz de schiste français, ce que je n'oserais pas faire aujourd'hui. Mais disons qu'en matière de panneaux photovoltaïques, de solaire, il n'y a pas photo, vous voyez, pour plus de 98%. Aujourd'hui, l'offre, c'est la Chine et les pays du sud-est asiatique. Donc là, en effet, c'est un élément majeur de réflexion que nous devons avoir à l'échelle européenne. Juste rappeler que la technologie aujourd'hui du solaire, c'est essentiellement la technologie silicium, hein, avec une moyenne de rendement de l'ordre de 20%, mais vous avez les différentes étapes du silicium à purifier jusqu'au module, les lingots de silicium, les galettes, les cellules et les modules. Et quand vous regardez ici, finalement, quels sont les acteurs des différents éléments de ces panneaux solaires, modules, cellules, galettes, silicium, vous voyez qu'en rouge, c'est la Chine, et en jaune, ce sont les pays du sud-est asiatique. Donc là, typiquement, toute notre économie vers le solaire, tout ce qu'on veut faire, pour le moment, c'est des ressources financières données à ces pays-là. Les États-Unis ne sont pas en reste. Vous le voyez ici avec la prévision aux États-Unis d'une installation de 54 gigawatts de solaire. Il y en avait 48 en 2022. Le PV monte, les batteries ça monte, et puis le gaz ça diminue, l'éolien ça diminue. Voilà, bon, pas en dire tellement plus, mais ce sont des chiffres là aussi de l'Agence internationale de l'énergie. Voilà, le bilan c'est que on observe en effet une tendance à l'augmentation de la part des énergies éoliennes et solaires, qui sont représentées en jaune ici. Et vous voyez, on part de 2011 et 10 ans plus tard, 2021, la part du solaire et de l'éolien augmente, mais représente encore les fameux 6+4%, donc les 10% que j'indiquais tout à l'heure. Voilà, qui contribue à diminuer un tout petit peu la part des carburants fossiles dans la production d'électricité. Alors, attention, hein, là, je ne parle que d'électricité, donc vous imaginez bien que je suis en train de parler de 17% uniquement, au niveau de la planète, 17% de toute l'énergie que nous consommons. Les 83% autres, non électriques, c'est pour l'essentiel de fossiles, du charbon et du gaz, et ça, ça n'a pratiquement pas changé. Voilà, et quand on regarde en matière d'investissement, c'est assez flagrant. Vous voyez en jaune, ce sont les investissements, alors c'est en milliards de dollars, ici en ordonnée. Ce qu'on voit, ce sont des investissements essentiellement en jaune en énergie renouvelable, donc solaire et éolien, mais comme vous l'avez entendu, surtout solaire. Et puis depuis le milieu des années 2010, c'est cette partie verte, c'est le transport électrique, c'est le véhicule électrique. Donc aujourd'hui, les deux grands axes, je dirais, d'investissement massif de la planète sur ces sujets-là, qui se chiffrent au total à autour de 1200 milliards de dollars, plus de 1000 milliards de dollars, c'est pour l'essentiel éolien, solaire et transport électrique. Le reste est pratiquement absent. En gris, un peu de nucléaire. Évidemment, il n'y a pas de nucléaire partout. Et l'hydrogène en rouge, si vous le voyez, vous me dites, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Et pour la France, maintenant, là aussi, on parle des énergies renouvelables et on a toujours l'impression que nos énergies renouvelables, c'est de l'éolien et du solaire. En réalité, ce n'est qu'une petite partie de nos énergies renouvelables. La grande énergie renouvelable en France, c'est le bois. Donc, en France, vous avez à peu près 20% d'énergie renouvelable pour la consommation finale brute d'énergie. Vous voyez, c'est les chiffres 2021. C'est à peu près, alors sur la base d'à peu près 1600 TWh de consommation d'énergie totale hein, pour la France, ça fait, donc vous faites le calcul, ça fait à peu près 310 TWh. Mais ici, vous avez les pourcentages des contributions, donc vous voyez que vous avez, si vous prenez le bois énergie, les biocarburants, le biogaz, les déchets, etc., vous êtes à plus de 50% qui est la partie bio. C'est pas l'éolien et le solaire. Vous avez en plus l'hydro. Voilà. Donc à la fin, même si on a un peu tendance à réduire les énergies renouvelables un peu partout, mais en France aussi, à l'éolien et le solaire, ce n'est pas que ça. Et c'est dommage de ne parler que d'éolien et de solaire. Il faut aussi se préoccuper de l'avenir de ces énergies bio, issue de la biomasse ou des déchets, et c'est ce que je ferai à nouveau l'année prochaine. Avec tout ce que j'ai à faire l'année prochaine, je me prépare des vacances d'été difficiles. Bon, donc vous avez les chiffres à peu près. La partie thermique des renouvelables, c'est 170 TWh. D'ailleurs, c'est supérieur à la partie électrique, et à nouveau, l'éolien et le solaire ne peuvent pas être ici, hein. C'est pas thermique, c'est électrique. Donc l'éolien, vous voyez, une trentaine de terawattheures, solaire une quinzaine, l'hydroélectricité c'est entre 50 et 60, tout à l'heure j'ai dit 60, mais bon. Et puis vous avez le bois, hein, le bois énergie qui est le plus élevé. Voilà la situation pour la France. Il m'a semblé utile que vous ayez cette information. Alors, en ce qui concerne l'éolien, pour la France, je vous invite à aussi regarder ce rapport qui a été produit par l'Académie des sciences, Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales et politiques. Ça montre que ces académies travaillent ensemble, ce qui est une bonne nouvelle. Puis après, on peut se demander pourquoi les beaux-arts se préoccupent des éoliennes, mais quand même. J'imagine que vous avez compris, parce qu'il y a quand même des problèmes, semble-t-il, d'acceptabilité de ces éoliennes dans les paysages, et les beaux-arts font attention de ne pas avoir une éolienne à côté de la cathédrale de Strasbourg, par exemple, ou des choses comme ça. Mais néanmoins, voilà, la situation, vous la connaissez, hein, près de 40 TWh, 37-38 TWh d'éolien, 6% de la production électrique, et ce qu'il faut donc savoir pour l'essentiel, c'est que pour nous en France, ce qui n'est pas le cas partout, l'éolien, c'est du terrestre. C'est des éoliennes avec des puissances qui ne sont pas colossales, pas plus de 3 MW, qui ont des facteurs de charge. L'éolien terrestre, c'est l'éolien qui a le plus bas facteur de charge, autour de 20-25%, et il y a à peu près 8000 éoliennes en France aujourd'hui, sur notre territoire. Alors, le problème, c'est que cette partie-là bouge peu maintenant, puisqu'il y a tout un tas de problèmes liés à l'acceptabilité de ces projets d'éoliennes terrestres. Et donc, comme ça se fait un peu ailleurs, il y a un grand engouement pour l'éolien en mer. La France débute, on peut installer des éoliennes de plus grande capacité, hein, 6 MW. Et ce qui est intéressant, c'est parce que, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de montagne en général à la surface de la mer, donc il n'y a pas de contrainte de système de vent, et donc on a des facteurs de charge qui sont beaucoup plus élevés, qui sont parfois pas loin de 40%, mais en moyenne, vous voyez, de 35-38%. Donc il y a un avantage à aller sur la mer, en tout cas pour faire de l'électricité avec du vent. Et nous en sommes qu'au début, puisque nous avons inauguré le premier parc éolien il y a quelques mois, en novembre 2022. C'est à Saint-Nazaire où 80 éoliennes ont été installées sur la mer. Et quand on regarde les prévisions RTE, les prévisions sont évidemment une augmentation du terrestre par un facteur 4 pour arriver à quelque chose comme 32 000 éoliennes, ce qui est assez colossal, mais ce n'est qu'un facteur 4. Et pour la mer, c'est la perspective d'avoir entre 50 et 100 nouveaux parcs, de l'ordre de 60-80 éoliennes chacun. Alors vous voyez que là, on part de 1, arriver à 100, ça veut dire qu'il faut multiplier par 100. C'est du sérieux. Évidemment, se posent toutes les questions associées à l'installation de ces capacités massivement sur le territoire, sur la mer, des questions d'acceptabilité, de nuisance, de biodiversité, de récupération, de recyclage, enfin, etc. Il y a cet argument que... qui est tout à fait entendable, que par exemple par rapport au nucléaire, les énergies éoliennes sont plus rapidement installables. En réalité, c'est pas non plus très rapide, parce qu'il y a en permanence des conflits sur chaque projet d'installation d'éoliennes, des recours par des associations, donc ça prend beaucoup de temps, mais qui soulève des questions pertinentes, hein, sur les nuisances, sur la biodiversité et sur évidemment la durabilité de ces systèmes. Voilà, là aussi, même question, est-ce que c'est nous qui faisons ça ou ça se fait ailleurs? Bon, ce qu'on observe depuis un ou deux ans, c'est véritablement une fragilisation de l'industrie éolienne européenne. Il y a quelques grandes boîtes en Europe, hein, au Danemark, Vestas, en Espagne, Gamesa, en Allemagne, Siemens. Mais comme vous le voyez, il y a aussi de gros fabricants en Chine, aux États-Unis. Voilà, Chine. C'est pas fait exprès, mais bon. Oui, pourquoi? Parce que hausse des taux d'intérêt... hausse des prix des matières premières, concurrence asiatique, de sorte que vous voyez, en investissement sur l'éolien, contrairement à au solaire, eh bien en Europe, on a moins investi sur l'éolien en 2021 qu'en 2020. Non, en 2022 qu'en 2021. Et puis quand on regarde où se passent les productions, par exemple, des pales d'éoliennes, eh bien, vous voyez, l'Europe est présente, mais ça ne correspond qu'à 15%. Donc là aussi, on a plus de 60% qui viennent de la Chine, de l'Inde, des États-Unis. Donc là aussi, nouvelle technologie et dans une Europe qui, au fond, n'est pas assez industrialisée et qui voilà, va devoir clairement se réveiller. Ce sont évidemment des questions centrales que les pays européens se posent. Alors maintenant, j'en viens au problème de ces énergies renouvelables. Parce que si c'était si facile, évidemment, il faudrait... on devrait vivre de vent et de soleil. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas simplement parce qu'il y a des lobbies pétroliers qui bloquent tout, ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a de très très grandes limites qui inhérentes à ces technologies dont je voudrais parler. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'éolien et de solaire, au contraire, je dis qu'il faut en faire, mais de façon réaliste et mesurée. Pourquoi ? Parce que, évidemment, nous avons de l'énergie solaire et éolienne sur toute la Terre, et y compris en France. Et quand on regarde à l'échelle de la planète, vous voyez, il y a à peu près 100 000, par exemple, si on prend le solaire, il y a à peu près 100 000 terawatts de puissance qui nous tombent dessus. La biomasse en capte une centaine de terawatts. Donc vous voyez, il y a de la marge, et la consommation mondiale en termes de puissance est autour de 17 terawatts. Donc il y a ce qu'il faut normalement. Donc c'est assez logique de faire un effort en matière de capture de cette énergie solaire et de ces énergies éoliennes. Les problèmes, ils sont listés ici, je montrerai quelques figures pour les illustrer. D'abord, ce sont des énergies de flux, pas de stock. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Le stock, c'est l'énergie de stock, par meilleur exemple étant le pétrole, par exemple, il est là, au fond de la Terre. C'est un stock d'énergie, il ne bouge pas, on le pompe, il est stable, et ensuite on le brûle et ça donne de l'énergie. Les énergies de flux comme le solaire et le vent, ce sont des énergies qui ont des fortes variabilités et donc elles sont intermittentes. Et ce caractère intermittent est évidemment un des problèmes majeurs de ces énergies. Il y a tout un tas de conséquences à cette intermittence. La première, c'est que si nous souhaitions les développer massivement, il faudrait avoir la capacité de stocker les excès d'énergie dans des situations de fort soleil, de grand vent, et ressortir cette énergie pour les périodes de nuit et d'absence de vent. Et donc ça pose la question majeure du stockage d'énergie qui fera l'objet de mon dernier cours cette année. Je vous dis tout de suite, ça n'existe pas aujourd'hui, le stockage des énergies renouvelables. On en parle, mais à l'échelle requise, ça n'existe pas. Valeur économique faible, parce que évidemment, quand on a un très très gros excès d'énergie solaire et d'énergie éolienne, plus que la demande, évidemment, ça perd de sa valeur. Il y a un problème de stabilisation des réseaux à partir d'une trop grande proportion d'une trop grande proportion d'énergie intermittente, et le facteur de charge est faible, on l'a indiqué, c'est 0,2 pour le solaire, 0, presque 4 pour l'éolien. 0,4, c'est pas si mal, pour l'éolien en mer. Ce sont aussi des énergies de faible densité surfacique quand on compare... l'éolien et le solaire au nucléaire en termes de mètres carrés utilisés par mégawattheure produit, on a aussi des différences importantes. Donc il y a une empreinte spatiale qui est forte, il y a une artificialisation des sols qui en découle, qui pose les problèmes d'ailleurs d'acceptabilité. Il y a aussi des besoins massifs en matériaux de construction, et notamment béton et acier. Là aussi, si on compare l'éolien et le solaire au nucléaire en tonnes, par terawattheure produit, on a des différences significatives qui donnent un avantage compétitif au nucléaire de ce point de vue-là. Et nous allons l'aborder, le besoin en ressources minérales, notamment pour l'éolien, besoin en terres rares, en métaux critiques, etc. Et on va avoir une explosion, vous allez le voir, j'ai deux dias, mais c'est Christophe qui développera ce thème, on va avoir des besoins massifs de ressources minérales. Ici, sur les questions des empreintes spatiales, il y a beaucoup de débats, de conflits, les uns disent ça, les autres disent autre chose, etc. Je crois que je vous l'avais mentionné, mais je vous renvoie à cet article qui est vraiment très bien fait en 2022, qui compare, vous voyez, nucléaire, gaz, hydro, solaire, géothermie, vent, biomasse. Ici, c'est en échelle logarithmique, attention. Et si ce n'est pas logarithmique, vous voyez, exprimé en terawatt-heure par kilomètre carré occupé, donc évidemment, plus c'est grand, mieux c'est. Et évidemment, on trouve en première place le nucléaire et le gaz, et puis les autres sont ridicules à côté, et on y trouve évidemment le solaire et l'éolien. Donc, vous voyez ici, si je compare le solaire ici à 10-1, on est pratiquement à 10, donc il y a un rapport 100 en termes de production d'électricité par mètre carré. L'intermittence, c'est ça. Vous voyez, en France, je ne sais plus quel jour c'était. Bon, je vois plus très bien, si vous voyez, voilà. Bon, en tout cas, vous voyez qu'on peut passer de 80% de la puissance installée, ce qui est considérable, jusqu'à zéro. Vous voyez ? Et c'est ce qui fait qu'en moyenne, on a des facteurs de charge qui sont indiqués ici, qui sont faibles. Alors, ça, c'est une sorte de moyenne qui peut être critiquable, mais parce que c'est une moyenne. Le nucléaire étant numéro 1 avec un facteur de charge de 60%, le gaz de 30%, mais comme vous voyez, l'hydraulique, c'est 30%. L'éolien, alors terrestre, un peu au-dessus de 20, en mer, presque 40. Solaire, autour de 15%. Et ça, c'est une étude récente qui a été faite dans le cadre de l'Allemagne, vous voyez, sur à peu près 6 ans, un pays qui a beaucoup installé d'éolien, et les chiffres sont confirmés, c'est-à-dire que le PV ici est autour de 11%. Vous voyez, c'est 995 heures sur toute l'année, qui fait 8760 heures. Hein. Une année, c'est 8760 heures. Donc c'est comme ça que vous arrivez au 11%. L'éolien terrestre, c'est 23%. Donc c'est, oui, ça colle à ce que j'ai indiqué ici. Et le offshore, c'est 38%. Ah oui, ben, j'ai indiqué ici que 8760, c'est une année. Ensuite, ressources minérales. Deux choses. Les ressources minérales, c'est les métaux critiques, mais c'est aussi, vous voyez, autre chose. Hein, c'est le béton, gravier, sable, calcite, etc. Mais si vous regardez en termes de gravier, par exemple, vous retrouvez l'éolien, l'hydraulique, l'éolien, le bon, photovoltaïque un peu moins, mais en quantité totale, vous voyez, de tous ces métaux et matériaux, dans le cas de l'éolien terrestre, vous voyez que vous avez pratiquement un facteur 15. Il vous faut 15 fois plus de tout ça. Hein. Ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Et ça, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que Christophe va en parler, mais on retrouve ici, alors il n'y a plus que les métaux ici, il n'y a plus le gravier, le sable, etc. Et on voit que entre les énergies, les sources d'énergie que nous utilisons aujourd'hui et celles que nous utiliserons demain, il y a une augmentation assez massive de besoins en termes de ces métaux. Et en particulier ici pour le cuivre qui est en bleu. Et puis dernière chose, et je pose la même question que j'ai posé pour le PV, est-ce que nous sommes autonomes? Est-ce que nous avons une sécurité d'approvisionnement? Est-ce que nous avons une souveraineté en matière d'accès à ces ressources minérales? La réponse, c'est non, puisque comme vous le voyez, en termes d'extraction, nous sommes nulle part. En France, en gros, Christophe nous le dira, on s'est interdit de faire le moindre trou. Donc évidemment, il n'y a pas de chance qu'on découvre, qu'on utilise des minerais français et des métaux français. J'ai déjà dit, mais aujourd'hui, en France, un trou égale une ZAD. Et en termes de raffinage, et là, c'est le grand domaine de la Chine. Hein, c'est ce qu'on voit en rouge pour les différents métaux. Mais je crois que Christophe commentera ça. Donc là aussi, perte. Enfin, vous voyez, PV, batterie, on l'a dit, éolien, perte donc de... perte de... Voilà. D'autonomie, de souveraineté. Donc il y a du travail à faire pour la retrouver en partie. Ce qui est en faveur, évidemment, investissement, soutien public, effort hein, technologique, les prix de ces énergies éoliennes et solaires baissent à une vitesse peut-être qu'on n'anticipait pas, mais elles baissent sérieusement. Il y a toutes sortes de chiffres qui circulent, mais ici, voilà un graphe pour vous montrer, en effet, vous voyez, pour le solaire, en 11 ans, la baisse pour arriver à quelque chose autour de 60 euros par mégawattheure. Bon, les chiffres varient entre 40 et 70. Pareil pour le solaire sur toiture. L'éolien offshore, c'est la même chose, hein, de 200 à 60. Donc, clairement, y a une baisse de coûts de production. Hein, des prix de production. Malheureusement, un rapport récent de la Banque Lazare montre qu'en 2023, ça repart à la hausse, pour tout un tas de raisons, et les mêmes que j'ai indiquées pour l'éolien européen, les problèmes de hausse des taux d'intérêt, d'accès, de demande croissante de matières premières, etc., etc. Et cette hausse des prix de production porte surtout sur l'éolien et le solaire, justement. Voilà, ça, je ne vous demande pas de... Regardez dans le détail de tout ça, mais en fait, tout le monde s'accorde, les économistes s'accordent pour dire qu'il faut raisonner aussi en incluant non seulement le coût de production de l'éolienne et du panneau solaire, mais aussi de tout un tas de coûts adjacents. Ici, j'ai pris une des études, il y en a plusieurs, mais ce sont les coûts de système. C'est ce qu'on appelle... C'est les coûts de backup, c'est les coûts d'équilibrage du réseau, c'est les coûts de service système, les coûts de renforcement du réseau. Enfin, il y a tout un tas de coûts supplémentaires. Il ne faut pas imaginer que c'est juste, on pose son éolienne et puis on calcule le béton qu'on a mis, le métal qu'on a mis et l'énergie qu'on a dépensée, enfin, etc. Il y a tout un tas d'autres choses qui fait qu'en réalité, vous voyez, pour l'éolien à terre, c'est... Voilà, on peut pratiquement doubler le coût total. Il en est de même pour l'éolien en mer et il en est de même pour le PV. Hein, voilà. Donc il y a beaucoup de discussions sur ces prix-là. Ils sont très variables, je dirais, d'heure en heure presque. Donc je ne veux pas intervenir, je veux simplement dire qu'il faut faire très attention en incluant, comme on le fait d'ailleurs pour le nucléaire, en incluant, et pour les autres et les centrales thermiques, en incluant l'ensemble des coûts associés à la chaîne à la chaîne solaire et éolien. En fait, tout ça a été dit. Je vous demande de regarder juste la dernière partie. En 2021, l'Agence internationale de l'énergie, RTE, ont publié un rapport très très intéressant, je l'ai déjà mentionné, qui essayait d'établir... C'était encore une époque où on raisonnait en cette idée étrange et totalement irréaliste d'une électricité 100% renouvelable. Et donc la question qui était posée à ces institutions, c'est quelles sont les conditions et les prérequis pour que on puisse rendre faisable techniquement un système électrique avec une forte proportion d'énergie renouvelable, c'est-à-dire proche de de 100%. Et en fait, ce rapport est intéressant parce qu'il nous dit quelles sont ces conditions-là. Pour moi, c'était intéressant parce que ça faisait longtemps que je le savais et que je le disais, mais aussi parce que ça montrait bien, et le rapport le concluait, qu'aucune de ces conditions n'était respectée aujourd'hui, donc que ce n'était pas possible d'avoir des quantités massives de renouvelables. La première chose, c'est que évidemment, il faut avoir un peu de pilotabilité. Quand il n'y a pas de vent et qu'il fait nuit, c'est pas possible. On ne peut pas vivre sans électricité, donc il faut à côté, et c'est ça le coût supplémentaire de mon tableau précédent, il faut des sources pilotables. Alors, tant qu'elles ne sont pas bas carbone, eh bien, on continue avec du charbon, du gaz et du pétrole. Et puis, si on peut rendre ces capacités pilotables moins carbonées, alors on pense à du biogaz, par exemple, ou de l'hydrogène, ou, enfin, etc. Mais de toute façon, il faut de la pilotabilité. La deuxième chose, c'est qu'il faut développer massivement le stockage d'énergie. Plus on installe de capacités intermittentes, plus il faut de stockage si on ne veut pas trop de ces capacités pilotables, parce que ce stockage, ce seront des énergies qui seront pilotables et que donc on est ramené à ici cette condition qui devient à ce moment-là respectée. Nous avions, avec Dominique Grand, que vous entendrez au dernier cours, hein, c'est lui qui vient faire le séminaire, nous avions calculé pour un scénario à 100% d'énergie renouvelable, publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, ici, en 2021, dans un scénario 100%, c'est quelque chose de l'ordre de plus de 100 TWh, proche de 150 TWh par an, qu'il faudrait stocker et redélivrer au système énergétique. C'est absolument colossal. Nous avons zéro aujourd'hui, et le monde a zéro, en quelque sorte. Et puis développer les infrastructures de réseaux électriques. Alors, j'ai déjà, je crois, montré cela, mais l'exemple de l'Allemagne illustre parfaitement bien cette problématique. Vous voyez, l'Allemagne, à nouveau, c'est le 15 mars 2022. À quelle heure ? 5 heures de l'après-midi. Il fait plus très clair, il n'y a pas beaucoup de vent, et ici vous avez en gris les puissances installées. Mais alors l'Allemagne sonore, elle a raison dans le contexte de ce qu'on veut faire en termes d'énergie renouvelable, d'avoir installé 60 gigawatts de vent et de solaire, sauf qu'à ce moment-là, vous voyez, en couleur, c'est ce qu'elle utilise réellement. D'accord, c'est rien. Il n'y a pas de vent à ce moment-là, la nuit tombe. L'hydro n'est pas très utilisé ici. Et donc, là, le nucléaire est à fond. D'accord, mais bon, ils n'en ont plus beaucoup. D'ailleurs, maintenant, ils en ont zéro. Et donc, comment ils font ? Vous voyez qu'ils font avec du gaz et du charbon. Il n'y a pas d'autre solution. Et ce qu'on voit ici, surtout, c'est que les Allemands, qui depuis très longtemps savent qu'il faut faire du stockage si on veut faire beaucoup d'énergie renouvelable, ce n'est pas le rapport de 2021 qui nous le rappelait, qu'ils ont attendu pour le comprendre, mais ils n'ont rien fait en termes de stockage. Pas parce qu'ils sont idiots et qu'ils ne voulaient pas faire de stockage, tout simplement parce que ce n'est pas possible aujourd'hui. On n'a pas les technologies pour le faire à l'échelle nécessaire. Donc les Allemands font du renouvelable et sans nucléaire, ils font du gaz et du charbon. Et c'est clairement, je conclurai là-dessus, ce qui nous pend au nez, si nous allons trop loin en diminuant la part de notre nucléaire, en allant trop loin dans la part du renouvelable et du renouvelable solaire et éolien, et nous ferons comme ça. Il faudra qu'on importe, de préférence du gaz, on n'importera, j'espère, pas de charbon, mais on importera du gaz. Voilà. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais regardez juste cette figure-là, c'est intéressant. Ici, vous avez la montée en Allemagne de l'installation de puissance en gigawatts d'énergie renouvelable, et vous voyez ici la puissance installée d'énergie thermique. Elle n'a pas bougé. D'accord ? Donc ça, c'est la démonstration claire que l'Allemagne ne peut pas toucher à ses centrales thermiques, même si elle met massivement des éoliennes et des solaires. C'est juste de la physique. Voilà. Et je termine là-dessus. Ça, c'est quand même quelque chose qui... Enfin, c'est la première fois que je montre cette dia que j'ai construite pour vous. Pourquoi il faut ce gaz? C'est justement pour assurer les pointes. Vous voyez, quand l'Allemagne, ici, est dans cette situation, c'est à ce moment-là, à 5 heures de l'après-midi, hein, les gens rentrent chez eux, on fait tourner la choucroute, voilà, on est chez soi, tout est allumé, donc il y a un pic de demande, d'accord? Donc pour la France, aujourd'hui, et depuis longtemps, hein, vous vous souvenez, j'ai montré une courbe où on produit de l'électricité à peu près à hauteur de 450-470 TWh, depuis, c'est la même valeur depuis 20 ans, et je répète, ça paraissait tellement absurde que nos derniers gouvernements pensent qu'on allait vers une baisse de cela, alors que rien ne le démontrait et que tout démontre qu'il faut aller vers plus d'électricité. Mais donc dans toutes ces années-là et encore aujourd'hui, le pic de puissance en France est autour de 95 gigawatts. Il faut avoir 80 gigawatts de puissance pour assurer les pics de demande. Alors évidemment, nous avons une situation très favorable en France, puisque nous pouvons ici, par exemple en 2017, j'ai pris les chiffres de 2017, pas loin de 50 gigawatts qui peuvent être mobilisés de nucléaire, c'est bas carbone, c'est formidable. Et puis vous avez un peu de gaz, charbon il n'y a pas en France, très peu. Et puis en bleu, vous avez de l'hydraulique, là on a poussé hein, les 18 gigawatts de barrages. Et puis il y a plein d'autres choses, et en particulier il y a ce qu'on appelle les effacements, c'est-à-dire que là on dit aux entreprises, certaines entreprises, allez-y mollo, vous baissez votre production, vous arrêtez certaines usines, enfin etc. etc. Et puis voilà, après un peu d'éolien, un peu de solaire, et évidemment s'il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent, ceci disparaît. Et puis avec ça, on arrive à 91 gigawatts et on rajoute, on peut aller jusqu'à 7 gigawatts d'interconnexion. Ça veut dire qu'on peut, vous savez, on est interconnecté à tout un tas de pays européens. Il y a un réseau électrique formidable. Évidemment, c'est une belle chose de l'Europe, hein, cette solidarité électrique. Et donc, on s'échange de l'électricité. Donc, dans un moment de fortes demandes, on réclame de l'électricité des pays voisins. Alors, évidemment, la difficulté aussi, c'est que si ce pays voisin, l'Allemagne, a plein de vent et de soleil, et qu'il n'y en a pas, enfin, a plein d'éolien et de solaire, et qu'il n'y a pas de vent, ni de... parce que c'est la même heure, en général, quand il fait nuit en France, il fait souvent nuit en Allemagne, à peu près en même temps. Et d'ailleurs, vous entendrez Dominique Grand vous dire que pour l'éolien, c'est pareil. La question du foisonnement, vous entendrez parler de ça. Le foisonnement, c'est cette idée que quand il y a du vent manquant quelque part en Europe, il y en a suffisamment ailleurs pour que la production éolienne soit répartie sur toute l'Europe. Vous allez voir que c'est faux. Et pourtant, c'est une forte, je le dirai la semaine prochaine, une forte hypothèse des scénarios RTE. Donc il y a ces interconnexions. Si je prends, j'ai pris que le scénario RTE qui est assez malgré tout faible, en le scénario de RTE de référence, 640 TWh, j'ai fait un petit calcul, en fait la pointe, elle va sortir à 130 gigawatts. Et ici, je me suis permis, pour le moment on n'a pas construit de réacteur nouveau, hein, mais je me suis permis de penser que nous aurions à peu près la même puissance installée de nucléaire, ce qui sous-entend qu'on aura fermé des choses et on en aura reconstruite suffisamment. Et ce n'est pas les 6 réacteurs dont on nous parle, même plus les 8, qui suffiront. Je l'ai déjà dit, c'est presque une trentaine de réacteurs si on veut arriver ici. Mais vous voyez, je fais quand même cette hypothèse, et vous comprendrez, vous ferez le calcul vous-même, que si je diminue ça, tout le reste doit augmenter, et c'est là où est le problème. L'hydraulique légèrement augmentée, pas grand-chose. Les effacements, on a forcé un petit peu. Mais là, ce n'est pas uniquement demander aux entreprises d'arrêter, mais c'est aussi de vous empêcher de passer l'aspirateur ou de, voilà, d'arrêter Internet. On peut augmenter les interconnexions. Il y a une grande discussion à l'échelle européenne, et RTE en parle, hein, d'augmenter la capacité des réseaux d'échange entre les pays. Et oui, ça c'est la même chose que ça. Et je dis, EDF en parle, augmenter un peu les puissances d'hydraulique. En fait, il reste ça. Et là, on retombe sur le même problème. C'est une vingtaine de gigawatts, c'est colossal, de quelque chose qui nous manque. Donc, soit c'est du stockage, c'est un truc qu'on a stocké à un autre moment. Dans mon dernier cours, dans 15 jours, c'est de ce sujet dont je vais parler. C'est quoi le stockage? Quels sont nos moyens de stockage? Quelles sont les quantités que les scénarios, qui correspondent aux scénarios qu'on nous fixe? Mais si on prend les leçons de l'Allemagne, si on voit les difficultés sur la construction de méga batteries, d'hydrogène massif, avec les capacités limitées en hydraulique de l'augmenter, etc., ben, en fait, voilà, on fera comme l'Allemagne. C'est ce que je disais, c'est qu'on n'aura pas le stockage. En tout cas, je m'avance, mais je dis qu'il n'y aura pas de stockage, de technologie de stockage à l'échelle requise, ni en 2035, ni en 2050, et qu'il faudra, parce qu'il faudra bien remplir cette case verte là. Elle doit être verte, hein, certes, mais il faudra la remplir. Donc ça sera du gaz, probablement, en tout cas pour la France. Et quel gaz? Du biogaz, peut-être, en partie, si là aussi on arrive à en produire à l'échelle requise. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, c'est la conclusion, je crois. Voilà, c'est pourquoi il faut un mix électrique. Voilà ma conclusion, c'est la conclusion sur mon électricité, sur mes cours d'électricité. J'espère vous avoir convaincu qu'il faut tout ça. Il faut du nucléaire assez massivement. Il faut, parce qu'on sait le faire, je ne dis pas qu'il faut du nucléaire partout, dans tous les pays, à 60 gigawatts partout. En tout cas, nous pouvons le faire et rester vertueux en matière d'énergie électrique décarbonée. Il faut des énergies renouvelables, il n'y a pas de raison de ne pas en faire, mais dans une limite raisonnable. Et probablement, il y a un sujet gaz qu'il faudra se poser, et la question de continuer à travailler, d'investir en recherche fondamentale, technologique, industrielle, sur le stockage d'énergie, batterie, hydrogène, STEP, hein, station de transfert d'énergie par pompage. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.